Bienvenue sur le podcast de l'Église Vie. Bonne écoute.
Ok. Bon, on va le connaître plus. Je veux, donc c'est un choix. On va lire simplement un verset. On lira d'autres versets. J'aimerais vous parler des richesses de sa grâce. Voilà. Et on va donc s'attarder sur Éphésiens. Au chapitre 1, Éphésiens 1, chapitre 1, verset 7. Alors c'est marqué en lui, mais c'est en Jésus bien sûr. En Jésus, par son sang, nous sommes rachetés. Pardonné de nos fautes, conformément à la richesse de sa grâce. Alors dans beaucoup de versions anglaises, et particulièrement aussi dans la version Darby, c'est selon les richesses de sa grâce. Et c'est plus précis, les richesses de sa grâce, parce qu'il n'y a pas juste une richesse, il y en a plusieurs. Et dans le premier chapitre de Éphésiens, ce sont des encouragements de Paul. Quelque part, c'est une révélation que Paul a eue et qu'il veut transmettre aux chrétiens. Et donc, comment nous regardons les Écritures? Comment on les regarde? Certaines façons. Donc, beaucoup regardent les Écritures et c'est un peu semblable à une grande galerie d'art. Imaginez que des gens arrivent dans une grande galerie d'art et où il se trouve bien sûr beaucoup de peintures célèbres. Et certaines personnes visitent ces endroits et souvent ils achètent un catalogue qui peut les guider. Et ils s'arrêtent devant la peinture par exemple numéro 1 et c'est une peinture de Van Eyck. Je pense que tu connais, Kat. Et ils disent, ah, ça c'est du Van Eyck. Et ils lisent simplement la description de cette peinture et les informations sur lui. Et puis ils continuent leur chemin, leur visite. Et ils s'arrêtent devant la peinture numéro 2. Et c'est une peinture de Rembrandt. Et ils disent, ah oui, ça c'est un Rembrandt. Un grand portrait, une grande belle peinture. Et ils continuent leur visite comme ça. Et ils arrivent bien sûr à la fin de la galerie. Et donc c'est une façon de découvrir une galerie d'art. En général, on découvre ces genres de peintures un petit peu de cette façon. Et j'ai l'impression que souvent, ces personnes vont dans les galeries d'art et à la fin, ils se disent « Allez tiens, on va avoir une autre galerie d'art ». Et ils enchaînent comme ça. Les galeries d'art. Et en fait, ces personnes-là, en général, bien sûr, ils ne semblent pas vraiment découvrir la profondeur de la peinture, ou découvrir peut-être le peintre dans sa profondeur, et le vrai sens du message qui émane de cette peinture. C'est un petit peu la même chose en ce qui concerne les Saintes Écritures. Souvent, on lit et on marche à travers les Écritures de cette façon. Un peu, et comme dans le chapitre 1 des Éphésiens, les gens ne s'arrêtent pas à ce qui est écrit de façon concentrée, de façon attentive. On ne s'arrête pas et on ne réfléchit pas. Et ça, c'est peut-être un danger. On lit, on a fait sa béa. On lit, mais on ne s'arrête pas. Donc il est important de passer du temps devant un verset, une phrase, un mot, et d'en découvrir les richesses, la richesse, en détail. Parce que tout ceci nous est donné par Dieu, ça a été inspiré par l'Esprit. Et donc les Écritures sont là pour plusieurs choses, pour nourrir nos âmes, enrichir notre esprit, remuer aussi nos cœurs, nous émerveiller, nous bousculer dans nos habitudes. Et si on veut connaître de telles expériences comme Paul, qui a écrit ces choses, les a connues pour lui-même, et le caractère et la pensée de Dieu, eh bien on doit s'attarder dans la parole et on doit en boire son contenu. Pas simplement quand on a hyper soif, quand on est desséché, qu'on doit en boire, mais on doit les boire continuellement et en rechercher bien sûr la plénitude des Écritures. Lire la lettre, connaître l'Esprit de Dieu. Conformément à la richesse de sa grâce. Donc on va s'arrêter devant ça, car Paul, à ce moment-là, il écrit ça, il est sous l'inspiration du Saint-Esprit. Et pourquoi il est sous l'inspiration du Saint-Esprit ? Pourquoi il a écrit ceci ? Afin que nous puissions, nous ici, comprendre le sens en profondeur. La première chose que Paul montre, c'est le prix de la rançon. Et le prix, c'est quoi ? C'est le sang. Le sang. Ce sacrifice. J'ai réfléchi ce matin encore, et je me disais, mais Dieu s'est fait homme, et il était pur. Il était sans péché. Il était sans maladie. Il était en pleine forme. La maladie n'avait aucun pouvoir sur lui. Elle n'avait aucun pouvoir parce qu'il était sans péché. Et malgré tout ça, il est passé par la souffrance. C'est incroyable. Le Dieu qui créa le monde, il est passé par la souffrance. C'est quelque chose d'incroyable, de beau. Après, l'effet du sang, il y a la délivrance. Ensuite, il y a le pardon de nos péchés. Mais ça ne s'arrête pas là. Qu'est-ce qui nous permet d'obtenir tout ça ? Eh bien, ce sont les richesses de sa grâce. En fait, c'est par la grâce, par sa grâce, car si Dieu n'était pas un Dieu de grâce, il n'aurait jamais pu se donner pour moi. Il n'aurait jamais pu se donner pour nous. Il aurait été un Dieu un peu comme les dieux que l'on voit dans les films de héros. Vous voyez un peu. Mais par sa grâce. Donc notons le terme grâce, il est souvent utilisé par Paul. Souvent dans les Colossiens aussi, dans les Éphésiens, il parle de la grâce. La gloire de Dieu donc se manifeste de multiples façons, mais particulièrement par sa grâce. Et au verset 6, on peut le lire, verset 6, c'est ce qu'il a voulu dans sa bienveillance pour que nous célébrions la gloire de sa grâce. C'est incroyable. Ce matin, avant de fouiller dans la parole de Dieu, avant de nous exhorter les uns les autres, eh bien, nous avons célébré la gloire de sa grâce. C'est ça, en fait. C'est ça, la louange. Célébrer la gloire de sa grâce. Et dans laquelle il nous a rendus agréables dans le bien-aimé. Les richesses de sa grâce, c'est ce qui nous transforme. Si on ne comprend pas les richesses de sa grâce, si on ne les cherche pas, eh bien, on ne peut pas être transformé. Ce n'est pas possible. On ne peut pas progresser. Dans le chapitre 2, de toujours du même livre Éphésiens, au verset 4, on va le lire. Paul dit ceci. « Mais Dieu est riche en compassion à cause d'un grand amour dont il nous a aimés. » Et ensuite, au verset 7, un peu plus loin, « afin qu'il montrât dans les siècles à venir les immenses richesses de sa grâce. » C'est incroyable. Donc il y a encore de plus grandes richesses dans l'avenir. Dans sa bonté envers nous, dans le Christ Jésus. Ça c'est au chapitre 9. Oui. Excusez-moi, dans le verset 9 aussi et verset 10, ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne puisse se vanter. En réalité, c'est lui qui nous a fait. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Donc Dieu avait un projet pour nous, mais en Jésus. On ne peut pas avoir de projet hors de Jésus. C'est impossible. Souvent, on pense qu'il y a des gens qui font des choses formidables. Ils ont des projets humanitaires, mais ce n'est pas en Christ. Et Dieu a un projet en Christ. Je réfléchissais encore ce matin et je me suis dit, mince, le début du monde et de sa fin ne sont qu'une infime partie des richesses de sa grâce. Ce n'est qu'un petit temps par rapport à l'éternité que Dieu a pour nous et que Dieu représente. C'est vrai, hein, c'est incroyable. Depuis la création du monde et la fin du monde, ça ne représente qu'une infime partie. On va aller un petit peu plus loin dans le chapitre 3 et au verset 8, toujours des Éphésiens. Moi qui suis le plus petit, Paul dit ça avec humilité, moi qui suis le plus petit de tous les saints, j'ai reçu la grâce d'annoncer parmi les non-juifs les richesses infinies de Dieu, de Christ. Les richesses infinies. Donc Paul, il a connu en fait cette grâce, la première grâce, où ça ? Sur le chemin de Damas. Et lui qui a été un persécuteur du corps de Christ, il était injurieux. Il insultait la personne de Christ. Il était orgueilleux. Il se vantait de faire ce qui était juste en tant que religieux respectable, respecté des autres. Et il faisait tuer des gens. Mais il a été pardonné. Il a reçu cette grâce. Et plus encore, il a été appelé à être un apôtre, un prédicateur de l'Évangile, un émissaire parmi les non-juifs. Et alors qu'il se regarde, il se dit, est-ce que c'est possible, Saul de Tarse, qui est devenu Paul l'apôtre, suis-je le même homme ? Comment expliquer que je sois ce que je suis maintenant ? Est-ce qu'on ne pourrait pas se poser la même question, nous, quand on se regarde devant un miroir ? La grâce de Dieu est venue sur nous. Quand on regarde peut-être, je ne sais pas, notre famille, quand on regarde nos ancêtres, on se dit, mince, la grâce de Dieu est venue sur moi. La grâce de Dieu, les richesses sont venues m'inonder. Donc on peut se poser cette question et il y a juste une réponse possible. Grâce aux richesses de sa grâce, ou à cause des richesses de sa grâce. Et donc ça explique pourquoi Paul l'écrit. Et il l'écrit pourquoi ? Pour quelle raison ? Alors parce qu'il le ressent lui, parce que ça lui a été révélé, mais parce qu'il désire tant que chacun de nous ici comprenne et expérimente en lisant ce que sont les richesses de sa grâce. Et c'est pour ça qu'il nous faut nous attarder sur ces choses-là. Sinon, on peut pas. Si on lit ça comme ça d'un œil, comme dans une galerie, eh bien on passe à côté des richesses. La question qu'on peut se poser, et que je vous pose, connaissez-vous les richesses de la grâce de Dieu ? Les avez-vous expérimentées ? Sommes-nous vraiment conscients d'elles ? Est-ce qu'elles demeurent en nous ? On ne les a pas toutes reçues, puisqu'il y en a encore après la mort, des richesses de sa grâce. C'est ça qui est incroyable. Quand Jésus, je vous prépare une place. Waouh ! C'est encore des richesses de sa grâce. Vous ne voyez pas la compassion que Dieu a pour nous ? Comment les gens qui refusent la grâce de Dieu refusent quelque part d'autres richesses de sa grâce qui sont infinies. Connaître les richesses de sa grâce, de la grâce de Dieu, nous conduit obligatoirement, comme Paul, nous conduit quoi ? À chanter, à le louer, à nous réjouir. Paul utilise beaucoup d'adjectifs. L'abondance, infini, l'immensité. Tout ça, ce sont des expressions qui sont fortes. Avons-nous réellement compris la gloire et la grâce de Dieu ? Est-ce qu'on lit vraiment toutes ces choses-là avec un regard furtif sur un tableau et sans connaître la signification profonde ? Vous savez, les tableaux, moi, quand j'ai passé mon bac, j'ai travaillé sur Van Gogh. Et je me suis vraiment attardé à étudier Van Gogh. Parce que, bon, Van Gogh... Mais quand on regarde ces tableaux, les tableaux illustrent véritablement la vie de Van Gogh. Et plus ça va, plus ces tableaux représentent vraiment son esprit, son caractère. Et à la fin, on sait ce qui s'est passé. Et pourquoi beaucoup de chrétiens se plaignent ? C'est vrai que ça arrive, les chrétiens qui se plaignent, qui gémissent et qui sont misérables, et vraiment qui n'attirent personne. Moi, quand je vais voir un tableau, il y a des tableaux vers lesquels je suis attiré, puis il y en a d'autres qui me donnent des frissons. J'exagère peut-être, mais où il y a un problème quelque part. Et je me dis, mais il y a des chrétiens qui sont un peu, nous sommes des tableaux qui représentent la gloire et les richesses de sa gloire. Et donc, s'il y a un problème, c'est qu'on n'a pas compris les richesses de sa gloire. On doit les transporter avec nous. Alors, pourquoi ces personnes sont comme ça ? C'est parce qu'ils ne voient pas et ne comprennent pas ces richesses merveilleuses. Ou ils ne les ont pas acceptées. Ou alors ils ne les ont pas expérimentées dans la plénitude de la grâce. Celle qui change n'importe quel être humain. D'ailleurs, je l'ai lu, hein. Même les sauvages, même les barbares sont changés. Donc si un barbare peut être changé, et que nous, en tant que chrétiens, nous ne disons peut-être pas barbares, et on a encore des difficultés, on tire la tronche, ou on n'est pas rayonnant, on n'est pas souriant, c'est qu'il y a un réel problème avec les richesses de sa grâce qui ne sont pas encore en nous. Donc quand on est émerveillé, on est en extase devant cette grâce, vous savez ce que ? Cela s'entend, cela se voit. Et on commence à vivre le véritable sens de ces richesses. Il y a un prix de ces richesses, de sa grâce. Est-ce qu'on peut estimer ? Quelle estimation donnons-nous à ces richesses ? On estime toujours les tableaux. Les tableaux de Van Gogh, c'est des millions. Mais franchement, est-ce que ça vaut vraiment des millions ? Quand on regarde ce tableau avec les corbeaux, avec ce champ vraiment perturbé, avec les nuages, enfin, je veux dire, ça vaut pas des millions. Seulement, les hommes, voilà, ont estimé que c'était un tableau formidable qui représente vraiment l'esprit de Van Gogh, tout simplement. Quelle estimation donnons-nous aux richesses de Dieu ? Paul déclare que l'amour de Christ dépasse toute connaissance. Donc, on va regarder la valeur de ce tableau. À combien estimons-nous la grâce de Dieu ? Donc, son sang. À combien on estime son sang ? À combien on estime la rémission de nos péchés ? Oh. À combien on estime son pardon ? À combien on estime, allons plus loin, l'héritage qu'il nous donne ? À combien on estime tout ça ? À combien on estime notre vie éternelle ? Il y a beaucoup de chrétiens aussi qui préfèrent rester chez eux en se disant bah, « on en connaît déjà assez de Dieu, on va manquer une rencontre, c'est pas grave, il va prêcher là-dessus, j'en sais déjà beaucoup. » Mais c'est comme si je lisais quelque chose dans la Bible et puis je mets un trait. J'ai déjà vu, je passe à autre chose. Je suis rentré déjà dans cette galerie des Écritures. Ouais, je connais, c'est bon, quoi. Je passe à autre chose. C'est bourré, ça a été inspiré par le Saint-Esprit. Comment on peut dire, Saint-Esprit, oh, je connais, c'est bon. Je t'ai déjà expérimenté une fois dans ma vie, je veux passer à autre chose. Terrible. L'or du monde, les possessions du monde ne peuvent nous sauver, ne peuvent nous donner la paix, ne peuvent nous donner la joie, ne peuvent nous donner la sécurité. Vous savez ce que font les valeurs et les richesses de ce monde? Les richesses, ouais, de ce monde? Eh bien, elles nous utilisent, elles nous trompent, elles nous volent, elles nous abandonnent, elles nous trahissent. Et elles sont très courtes par rapport à l'éternité, par rapport à ce qu'on peut vivre sur la terre. Et aujourd'hui, on parle souvent du pouvoir d'achat. On en entend partout. Moi, je veux entendre plus du pouvoir de Dieu qui nous donne ses richesses de sa grâce. Et Dieu, au travers de ses richesses de sa grâce, qu'est-ce qu'il fait? Il nous transforme. Il nous enrichit. Nous en avons besoin pour ne plus être assujettis à ce monde, pour ne plus être enchaînés à ce monde, parce que le monde veut nous enchaîner à des choses qui sont subtiles, qui n'ont aucune valeur. Mais, merci Seigneur, parce que nous choisissons d'être en extase devant de telles richesses que seul Dieu peut donner, au travers de son sang, de la rémission de nos péchés, de son pardon. Nous obtenons et nous profitons de ces richesses. Ce sont les nôtres. Personne ne peut les enlever. Personne. Bien sûr, ce sont les nôtres si, il y a toujours un si. Si nous avons le désir de les rechercher et de les découvrir. C'est comme un trésor. On sait qu'il est là et je vais creuser. C'est important. Dieu nous a adoptés. Dans Jean 1, versets 12 et 13, il est dit ceci. Écoutez bien. Jean chapitre 1, versets 12 et 13. « Mais à tous ceux qui l'ont accepté, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit de devenir enfants de Dieu. » Puisqu'ils sont nés non du fait de la nature, ni par une volonté humaine, c'est incroyable ça, ni par la volonté d'un mari, mais qu'ils sont nés de Dieu. Waouh ! Tout ce qui est né du monde, tout ce qui est né de la chair, reste de chair. Et tout ça, ça va partir en poussière. Mais tout ce qui est né de Dieu sera éternel. C'est pas merveilleux ça? Dieu nous a adoptés, on est ses enfants. Et donc toutes les richesses de sa grâce, c'est pour nous. Si je suis né de Dieu, donc je dois chercher, regarder et comprendre les richesses de sa grâce. J'aimerais terminer dans Ésaïe 55 au verset 1. Vous connaissez? Oh, vous le connaissez. Clara, elle connaît parce qu'elle a étudié Ésaïe de long en large. Mais elle doit revenir pour rechercher encore les richesses de sa grâce, comme moi d'ailleurs. Vous tous qui avez soif, 55 verset 1. Vous tous qui avez soif, venez vers l'eau. Même celui qui n'a pas d'argent, c'est formidable ça. Venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Pourquoi dépensez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi, vraiment, et vous mangerez ce qui est bon. Vous savourez les plats succulents. Et dans Jean 4, verset 14, il est dit, « Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Donc s'il n'y a pas d'eau qui jaillit de nous, qui ne fait pas envie, eh bien on est comme une peinture de Van Gogh. C'est terrible ça. Comme je vous l'ai dit, il y a des chrétiens qui ne sont pas, qui sont misérables. Ce n'est pas des chrétiens d'ailleurs. Mais non, quelque part, oui. Ou alors ils sont en grand danger. Mais voilà, deviendra en lui une source d'eau qui jaillira. Donc ça jaillit pourquoi ? Bah pour éclabousser les autres. Pour éclabousser ceux. Et Paul a écrit ces choses parce que ça jaillit de lui. Et il désire. Il a écrit ça pour que ça jaillisse sur nous. Et aujourd'hui, 2000 ans plus tard, ça jaillit sur nous. C'est incroyable les richesses. Ayons du zèle, ayons cette étincelle dans nos yeux, ce désir pressant. Ça se voit dans nos vies, dans nos conversations, dans nos priorités. Il nous faut encourager, il nous faut presser en avant, pousser les autres en avant. Alors oui, certains refuseront, ça c'est clair, mais il nous faut continuer. Et donc je vous encourage tous à lire, à porter un regard sur les Écritures, non pas avec un œil léger, mais un œil averti. Bien sûr, il y a des choses dans les Écritures que nous ne comprenons pas. Mais essayons de plonger notre esprit, comme hier un peu. Clayton jouait avec moi aux échecs, et à un moment donné, il s'est pris la main dans sa tête, mais il a essayé de plonger son esprit sur les échecs. Mais voilà, c'est comme ça qu'on doit dire la parole de Dieu, avec un œil affûté. Forçons-nous à examiner, à rechercher, à comprendre et à découvrir, comme Paul et bien d'autres, avec ce regard contemplatif, émerveilleux, les richesses que Dieu met devant nous. Et ensuite, ne restons pas là. Hein ? On doit s'accaparer, prendre en possession pour notre vie et pour notre vie, celle à venir. Alors attention, n'allez pas dans une galerie et prenez un tableau avec vous pour le mettre chez vous. Non, non, mais la parole de Dieu, c'est quelque chose que... En fait, c'est le plus beau tableau de ce que représente Dieu, pour l'instant. Parce que quand on sera dans l'éternité, on verra encore un autre tableau qui sera merveilleux. Voilà, je voulais vous encourager par rapport à cet encouragement que Paul nous donne. Merci Seigneur. Amen.
Vous venez d'écouter le podcast de l'Église Vie. À bientôt.